Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Fever left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah!
Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 638 du podcast Touchdown Actu. Je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de preview de la semaine en NFL. Et aujourd'hui, je retrouve mon compère Victor Roulier. Salut Victor.
Et bonjour Raoul, bonjour à tous.
Victor, est-ce qu'on ne se renommerait pas les Jinx Brothers ou un truc comme ça, tu sais, rapport aux Browns qu'on avait annoncé comme favoris?
Les Browns ont gagné un deuxième match, ils sont toujours dans la course de l'AFC. Les Cowboys ont perdu un match, mais bon, on teste de l'accident. Donc, pour l'instant, on va dire que ce n'est pas notre faute.
Allez, on continue une semaine comme ça. Cette semaine, l'émission vous est présentée par Sisplay. Vivez la saison régulière sur Sisplay tous les dimanches à 19h. Une affiche NFL en direct et gratuitement. Et ce dimanche, ce sera un duel au sommet entre les Bills et les Dolphins. Alors, direction l'appli Sisplay ou sisplay.fr. Et puis, de toute façon, Victor, on ne va jinxer personne aujourd'hui puisqu'on va essayer de comprendre un des grands mystères de la rentrée. Pourquoi les Broncos sont-ils aussi nuls? Voilà, c'est la question à laquelle on va tenter de répondre et surtout d'essayer de trouver des solutions pour eux. L'affiche de la semaine, c'est évidemment le match entre Buffalo et Miami sur Sisplay, puis les pronos et les cotes. Victor, est-ce que tu es prêt?
Je suis prêt.
Alors, c'est parti.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Le débat de la semaine, comment sauver la maison Broncos. Tu sais qu'avant le match face aux Dolphins, Victor, les Broncos avaient un différentiel de moins 3 en points inscrits, donc défaite de 2 points face aux Commanders, puis 1 point face aux Raiders. Et là, ils se prennent 70 points dans la vue. Est-ce que on peut déjà... Moi, j'aimerais qu'on commence déjà par trouver quels ne sont pas les problèmes. Et est-ce qu'on peut tout de suite éliminer l'attaque de la source de ces problèmes?
Alors, éliminer l'attaque... Je ne sais pas, c'est-à-dire que cette attaque, sur le papier, devrait porter cette équipe et ne le fait pas. Mais tu as raison de souligner que la performance globale de l'attaque, bien que, on va dire, moyen plus, ce n'est absolument pas la raison pour laquelle ils perdent des matchs actuellement.
Les stats de Russell Wilson, pour info, c'est 65% de passes complétées, 6 touchdowns, 2 interceptions et 791 yards lancés, sachant qu'il a déjà mangé 10 sacs dans la vue. Moi, j'ai bien envie de l'excuser pour cette fois-ci.
Non, mais c'est ça. C'est, en fait, ce petit point noir, c'est peut-être la ligne offensive qui est un petit peu moins bonne qu'attendue. Et du coup, il y a cette semaine 1 où quand même, il devrait produire plus face à une faible défense. Mais clairement, c'est pas là où... C'est pas l'endroit qui pose le plus de problèmes aujourd'hui.
Alors, on va switcher doucement vers l'autre côté et... Est-ce que pour le faire, on ne pourrait pas faire une transition un peu mixte en disant on a peut-être misé trop aussi sur cette attaque pendant l'intersaison et tu vois, tu parlais de la ligne offensive. Est-ce que McGlinchey et Powers qu'on a recrutés ont le rendement attendu? Est-ce que tout ce qu'on a voulu mettre autour de Russell Wilson, finalement, n'a pas aussi un peu déplumé ce qui va être notre problème d'après, qui est la défense?
Je pense même pas. En fait, moi, ce que j'attendais le plus de cette attaque, alors oui, il y a quelques recrutements, mais ce n'était pas non plus sensationnel. Moi, j'attendais que l'arrivée de Sean Payton, qui est quand même un coach résolument offensif, transfigure un peu ses joueurs, leur permette d'être meilleurs. Et finalement, bah, Sean Payton, il n'arrive pas à donner ce supplément d'âme à cette équipe. Et ils paraissent toujours aussi limités. C'est ça qui est dommage, parce que sur le papier, tu as Sutton, tu as Jeudy, tu as Mims, tu as Wilson. Tu es censé faire des choses. Et c'est vrai que ce qui est un peu frustrant, c'est de se dire que cette attaque, c'est mieux que l'année dernière. Difficile de faire pire, mais ça reste pas. Voilà, c'est pas un cheval de guerre aujourd'hui.
Oh, tu mentionnes l'année dernière, tu sais que je suis retourné voir la fiche de preview de la saison des Broncos sur le site. On avait mis la défense en point fort oui. De cette équipe de Denver. Et en fait, bah, c'est l'énorme problème. On l'esquive un peu depuis tout à l'heure pour vous faire patienter. Vous savez, ça, c'est des techniques de podcasteurs. On vous maintient à l'antenne exprès. Mais le problème, il est là, Victor. Cette défense, elle est abyssale. Alors oui, bien sûr, là, les chiffres sont gonflés par la claque qu'ils viennent de prendre. Mais ça ne va pas du tout. Qui est le fautif numéro un pour toi?
C'est absolument incompréhensible, parce que c'est un groupe qui a été très bon l'année dernière, qui globalement est à peu près resté au même niveau en termes de qualité sur le papier, et qui en plus a eu le luxe de récupérer Vance Joseph, qui est quand même un des coordinateurs défensifs les plus reconnus dans la ligue. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est catastrophique. Alors oui, c'est gonflé par match Dolphins, mais malgré tout, ils ont encaissé 1375 yards, ce qui n'est que 23 yards de plus que les Chargers, hein, je tiens à dire.
Oui, la différence, c'est que les Chargers, en attaque, ça performe. On en parlera plus tard.
Mais en tout cas, non, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a aucun joueur qui évolue à son niveau, à part peut-être José Jewell, le linebacker. Mais il y a, en fait, aujourd'hui, le pass rush est inexistant. En fait, toute la ligne défensive est inexistante. Les safeties, bah, c'est problématique. En plus, avec un Justin Simmons qui a l'air clairement blessé, donc ça n'aide pas. Et même au niveau des cornerbacks, Surtain, ce n'est pas catastrophique, mais ce n'est pas le shutdown corner qu'on a connu sur certaines saisons. Moi, parfois, en fait, la NFL est à certains points assez inexplicable, et notamment la défense. Tu sais, cet effet de groupe et d'harmonie est très important en défense, peut-être encore plus qu'en attaque. Et quand bien même tu as des grands noms, quand le schéma ne marche pas, quand les joueurs ne sont pas sur la même ligne, ça donne des résultats catastrophiques. Alors oui, là, on est sur des résultats historiquement catastrophiques.
Oui.
Mais globalement, le pire, c'est que sur le papier, il y a de quoi faire. Mais c'est juste que cette équipe, elle semble perdue, et cette défense, elle est désynchronisée totalement.
Alors, il faut quand même trouver des responsables. Là-dedans, tu dois... Alors, on l'a dit, Sean Payton, nouveau coach, qui est plutôt un coach offensif. Il pourrait apporter un supplément d'âme. Tu as mentionné Vance Joseph, le coordinateur offensif, qui est un ancien head coach des Broncos il y a quelques années, pour ceux qui suivraient la NFL depuis moins longtemps. Donc, en plus, qui connaît la maison, qui connaît un peu les habitudes, qui connaît certains des joueurs qui sont là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'on essaye de changer complètement quelque chose? Changer un schéma, tu ne peux pas faire ça en cours de saison. J'imagine que c'est des automatismes qui mettent des semaines et des semaines à mettre en place avant. Est-ce qu'on essaye de recruter un joueur agent libre qui pourrait apporter quelque chose? Mais il n'y en a plus vraiment non plus. Comment on fait, Victor? Donne-nous les réponses.
J'ai envie de dire que là, le seul espoir, entre guillemets, long terme, c'est un réveil collectif de cette défense. C'est des joueurs qui prennent leurs responsabilités, comme on l'a dit, Justin Simmons, si tant est que son corps le laisse tranquille. Mais il y a aussi d'autres joueurs qui doivent clairement faire plus. Je parlais de cette ligne défensive. Un joueur comme Randy Gregory, il ne peut pas passer à côté des matchs comme ça. C'est censé être le genre de joueur un peu qui a des excès, mais qui est une sorte de catalyseur, de joueur qui apporte de l'énergie à toute équipe. Bah, là, globalement, on ne le voit pas. Zach Allen, on attend de voir le Zach Allen de l'année dernière, parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'il est devenu. Enfin, soit il y a un problème de préparation, et dans ce cas-là, ça va mettre des semaines à se corriger, soit c'est un problème dans la tête et il va falloir un électrochoc. Et c'est là où le leadership de Sean Payton, en fait, doit jouer. C'est-à-dire qu'il les enferme dans une salle, il leur explique qu'ils font de la merde,
la lumière.
Et il les remotive, tu vois. Ouais. Muscle ton jeu, Robert, tu vois, on apprend des meilleurs. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire par recrutement? Pas grand-chose. C'est plus remettre les joueurs à leur niveau.
Donc, la solution doit venir de l'intérieur. Est-ce que cette saison est déjà foutue, à oublier en termes de suite après la saison régulière? Les playoffs ont déjà l'air quasiment hors d'atteinte. Qu'est-ce qu'on peut essayer de viser pour cette équipe de Denver?
On peut essayer de viser, de ne pas être ridicule. Je pense que 0-3 en AFC, c'est trop. C'est trop. Tu serais en NFC Sud ou même en AFC Sud, je te dirais, allez, ça peut encore le faire et tout, machin. Bon, il y a quand même très peu de chances qu'ils aillent prendre le titre de division.
Ça, oui, on va se dire que ça, c'est à peu près foutu.
Et ça va être quand même très difficile d'aller chercher la wild card. Donc, Paris, pas être ridicule, construire un groupe, construire une énergie et espérer commencer à 100% l'année prochaine. Je pense que malheureusement, on est à un moment où là, c'est juste l'enjeu, c'est de gagner des matchs.
Tu sais que un peu dans la suite de leur calendrier, il leur reste forcément deux fois les Chiefs, deux fois les Chargers, il va leur rester les Bills, les Browns et les Lions, à peu près comme équipe, si tu veux, qui aujourd'hui performe. Donc là-dedans, ça me paraît extrêmement compliqué d'aller chercher de quoi sortir une wild card de l'enfer. Enfin, ouais, j'y crois pas vraiment non plus.
Donc là, de toute façon, on va en parler dans les previews, hein. Mais en semaine 4, ils affrontent les Bears. Là, s'ils ne battent pas les Bears, on arrête la saison. Hein.
Oui.
Je crois que...
Oui. Je pense qu'à ce moment-là, on renvoie tout le monde et puis on met les mascottes sur le terrain et puis on passe un bon moment au lieu de s'infliger ces chances-là. Voilà pour notre petit point d'état des Broncos. On va passer tout de suite à l'affiche de la semaine. Victor, c'est une affiche magnifique qui nous attend entre deux équipes qui prétendent à beaucoup cette saison, bien plus que les Broncos en tout cas. Affiche que vous allez pouvoir suivre sur Sisplay, souvenez-vous-en. Miami Dolphins face aux Buffalo Bills. Miami est invaincu, Buffalo a perdu son premier match face aux Jets. Victor, c'est tout simplement les deux meilleures attaques de la NFL en termes de points marqués. Bon alors, encore une fois, hein, on parle de Dolphins qui viennent dans le Quest 70. Mais est-ce qu'on se dirige vers une orgie offensive selon toi?
J'en suis pas persuadé. Parce que la défense des Bills, là par exemple, tu disais plus de points marqués. Quand on regarde le match face à Washington, l'attaque galère pendant quasiment trois quarts temps. Et ce qui leur permet d'empiler les points, c'est que cette défense, elle fait 9 sacks, elle provoque 4 pertes de balles. Il y a même un pick six en vrai dans les points marqués. Mmh. Et du coup, elle donne des positions sur le terrain favorables à l'attaque de Buffalo. Et moi, tu vois, depuis le début de la saison, ça va beaucoup mieux hein, pour Buffalo en semaine 2 et 3. Pas de problème avec ça. Mais le moteur de cette équipe, pour moi, c'est la défense.
Eh bien,
et
tu
du coup, je serais en train de dire, c'est force contre force.
Tu le mentionnes assez bien, puisque Buffalo, c'est la deuxième meilleure défense en termes de yards encaissés. 253 en moyenne, là, sur le début de saison. Maintenant, en face, il y a Raheem Mostert et Tyreek Hill. Comment tu arrêtes ces deux ovnis? Parce que pour l'instant, c'est des ovnis.
Oui, et puis tu rajoutes Jalen Waddle et tu rajoutes Devon Achane.
Oui, mais déjà rien que s'il y avait que ces deux-là, ce serait énorme. Mais
je pense que globalement, tu dois accepter le fait que tu vas te prendre des yards, que tu vas te prendre des points. Il faut juste en prendre le moins possible. Et en fait, pour en prendre le moins possible, face à des attaques qui, quoi qu'il arrive, vont être productives. Je pense qu'il y a deux clés. Il y a une clé en défense, c'est provoquer perte de balles. Et ça, les Bills savent le faire.
Ouais, c'est numéro un en NFL pour l'instant. 7 interceptions et je crois 2 fumbles forcés. Ils sont à plus 9. Et il y a 12 sacs aussi, tu l'as dit.
Et c'est ça. Et on sait que sur le papier, la faiblesse des Dolphins, c'est une offensive. Je dis sur le papier parce que, pour l'instant, Connor Williams, Hunt, Armstead, etc., sont très bons. Donc, si ça se trouve, ils ont juste tous progressé et ça ne va pas du tout être un problème au fil de la saison. Mais c'est vrai que sur le papier, c'est censé être un petit peu plus faible que le reste. Et l'autre point important pour battre ce genre d'équipe, alors je suis désolé, du coup, je pars du point offensif, mais c'est contrôler l'horloge aussi. En fait, si tu veux, une attaque aussi inarrêtable, pour pas qu'elle marque de points, il ne faut pas qu'elle ait le ballon. Ça paraît bête, hein. Mais non, contrôler l'horloge, c'est plus que difficile en NFL. Tout le monde ne sait pas le faire. Et c'est quelque chose qui va être vraiment clé dans ce match.
Même des coachs double champions du Super Bowl ne savent pas contrôler l'horloge. Hein. Bien sûr, Andy Reid, on t'embrasse. Oui. Historiquement, j'ai regardé, c'est une équipe qui réussit plutôt bien à Buffalo, les Dolphins. Alors, bien sûr qu'il y a eu une vraie progression récemment. Enfin, on avait quand même 9 victoires sur les 10 derniers matchs en faveur des Bills. Voilà, ça... Moi, j'ai toujours un peu ce petit facteur poids historique entre deux franchises qui peut faire qu'une équipe se sent un peu meilleure que ce qu'elle n'est vraiment quand elle a battu 9 fois sur 10 son adversaire. Donc, pourquoi pas ? De toute façon, c'est une rivalité de division, donc c'est deux équipes qui se connaissent bien. Mais voilà, récemment, ça réussit plutôt à Buffalo.
Ça, on le voit hein, historiquement. Dans les matchs de division, il y a des sortes de syndrome du grand frère, ou je ne sais pas comment le dire, de, par exemple, Shanahan qui bat tout le temps McVay, même si la seule fois où ça n'a pas été vrai, c'était en play-off. Hein. Mais Belichick qui bat tout le temps les Jets, tu vois, ce genre de choses. C'est Belichick, même quand les Patriots sont au fond du trou, ils battent quand même les Jets. Quoi. Je crois que ça fait 14 fois, ou je ne sais plus quoi.
C'est genre, il n'a pas le droit de perdre, sinon il ne rentre pas chez lui.
Et il y a des choses comme ça que parfois tu n'expliques pas forcément, mais il y a des ascendants. Et je pense que malgré tout, c'est pas décisif, mais il y a un petit ascendant quand tu rentres sur le terrain en disant putain, face, c'est les mecs qui nous ont battus 4, 5, 6, 7 fois, selon depuis combien de temps le joueur est là, et c'est sûr que ça rentre un peu dans la tête.
Et ben, tu vois, moi, tout ça, le côté énorme machine à turnover de Buffalo depuis le début de l'année et ce poids un peu historique des Bills, j'ai tendance à penser que je vais pronostiquer les Bills.
Voilà. Alors, je suis parti sur les Bills aussi.
Je crois qu'on est juste tous les deux, d'ailleurs.
Non. Mais en tout cas, c'est très équilibré. C'est sûr que c'est pas... Je crois qu'on a Lucas avec nous. Donc,
Si, 3 contre 3, pardon. Lucas, toi et moi, bien sûr.
Donc, 3 contre 3 dans la rédaction, c'est la preuve de à quel point ce match est équilibré. Je pense que, comme j'ai dit, et je vais peut-être conclure là-dessus, mais on a vu un jeu de course de Buffalo qui est en progression depuis le début de la saison. Bien mieux que l'année dernière. Et encore une fois, toujours dans cette notion de contrôler l'horloge, je pense que ça va être fondamental pour Buffalo d'installer le jeu à la course. Et s'ils arrivent à faire ça et que la défense voilà, provoque ces petites pertes de balles à droite, à gauche, bah, du coup, je pense que ça peut jouer à ce moment-là. En plus, si je ne dis pas de bêtises, c'est à Buffalo.
C'est à Buffalo.
Si jamais il fait moins 12 et qu'il neige, ça va pas aider le jeu aérien de Miami.
Ouais,
non, je sais, il y a le réchauffement climatique maintenant, mais Buffalo, c'est toujours un peu, on sait jamais ce qu'on a hein, dans cette ville de Buffalo. Mais en tout cas, non, je pense que malgré tout, je vais donner un tout petit avantage au Bills, mais franchement, tu lances une pièce et tu regardes pied aux fesses.
Ouais, je sais pas. Allez, Bills pour nous deux en tout cas. Voilà pour notre affiche de la semaine. On passe à tous les pronos. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night! And it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong! Yes, sir! And we're gonna work on three! One, two, three, work! Et avant de faire tous les pronos, on fait le point sur les points. Et ça va mieux pour moi.
Pas mieux pour moi.
Je fais le meilleur score de la semaine 3 avec 13 points. Ça ne m'est pas souvent arrivé, 13 points, je suis content. Greg et Alain sont à 12, Lucas à 11, Raphaël à 9 et Victor est à 8 sur cette semaine 3. Aïe, aïe, aïe. Au total, Lucas mène le groupe avec 34 points. Alain est deuxième à 31, déjà un petit écart. Raphaël est troisième avec 30. Grégory est quatrième avec 28. Je pointe à la cinquième place avec 27. Et merci Victor de me sauver de la place de la lanterne rouge que tu prends avec 25 points.
Écoute, je sortais de deux bonnes saisons. J'ai été confiant. J'ai peut-être pas assez renouvelé de groupe. Et maintenant on est dans une situation difficile, mais on va prendre les matchs les uns après les autres et on va essayer de remonter.
Bien sûr. Victor, les nouveaux Broncos, ce sera le titre du prochain podcast de Preview. Non, non, bien sûr. Non, 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 tu mérites mieux que ça. On va faire le point et les pronos sur tous les matchs de la semaine 4. C'est parti. On commence dans la nuit de jeudi à vendredi, hier soir, si vous nous écoutez vendredi matin, avec le match entre les Packers à 2 victoires et une défaite face aux Lions à 2 victoires et une défaite. Ce sera à 2h15 du matin. C'est une belle rivalité, 186e match entre ces deux équipes. Détroit a gagné les 3 derniers matchs. J'avais pas pris ça, j'avais pas vraiment revu ça. Maintenant, est-ce que les Lions sont un peu... Tu vois, moi j'ai un peu l'impression qu'ils sont rentrés dans le rang, pas dans le sens où ils vont se calmer, mais dans le sens où ça devient une bonne équipe qui va pas faire trop de bruit non plus, contrairement à ce qu'on attendait en début d'année, et qui va petit à petit faire son chemin jusqu'en play-off. Est-ce que tu as cette vision-là aussi?
Oh, je te trouve dur quand même. Je te trouve dur parce que moi, j'ai eu l'impression que ce week-end, ils ont gagné un match que d'habitude, ils auraient perdu avec une certaine maturité qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Et de l'autre côté, on a quand même des Packers qui ont gagné un match au raccro. Bon, bravo à eux, hein, pour le coup.
C'est historique, hein. C'est une énorme perf. Ils l'ont fait avec le style. Je crois que c'est la première fois depuis 2000 qu'une équipe qui avait mis 0 points en 3 quarts temps gagne le match avec un retard de 17 points ou plus. Voilà, c'est une stat bien NFL-esque, ça.
Oui, mais après, moi, en fait, ce qui me dérange, entre guillemets, encore un peu avec les Packers, et ils n'y sont pas pour grand-chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup de blessés. Christian Watson, on nous avait dit « Ah, ça sera une semaine et tout », finalement, il ne revient pas, ça commence à devenir embêtant. Bakhtiari, on nous a dit « Non, mais c'est parce qu'il veut jouer que sur un certain type de sol », finalement, il n'est pas revenu. On a Ethan Jenkins qui a aussi des petits bobos. Enfin, ça commence à s'accumuler et en fait, sur un match, tu peux compenser. Quand ça commence à faire beaucoup de matchs, tu sais, souvent, il y a un moment où ça commence à craquer un peu. Donc, j'aime bien cette équipe. J'ai juste un peu peur pour eux, là. Mais on va voir.
Tu vois, en fait, tu l'as mieux dit que moi. Rentrer dans le rang, c'est vrai que ça a l'air négatif. C'est, moi, contrairement à l'avant-saison où tout le monde s'est un peu hypé en mode c'est une équipe qui va être explosive, ce que tu dis, qui est une équipe mature, finalement, c'est qu'elle gagne comme il faut et avec ses arguments à elle. Et en fait, j'ai raté mon compliment. Pardon à tous les fans des Lions. Je vais prendre les Detroit Lions, moi, pour coup.
Oui, je vais prendre les Lions aussi, oui. Mais après, voilà, ça reste un excellent match du jeudi. On n'a pas toujours des belles affiches le jeudi. Celui-là, il donne envie d'être regardé.
Profitons-en. Dimanche, alors attention, dimanche à 15h30, puisqu'il y a un match à Londres, messieurs-dames. Le match des Jaguars à 1 victoire et 2 défaites face aux Falcons d'Atlanta à 2 victoires et 1 défaite. C'est le 10e match de Jacksonville à Londres. C'est la love story entre ces deux-là. On a bien parlé des Jaguars dans le podcast d'hier. Je ne m'attendais pas à les voir avec une fiche moins bonne qu'Atlanta après 3 matchs, je t'avoue, Victor.
Je suis pas particulièrement étonné qu'Atlanta soit bien. Je suis très étonné par les performances des Jaguars. C'est-à-dire que perdre contre les Chiefs, c'est pas honteux, mais perdre de la manière dont ils l'ont fait, c'était préoccupant. Puis là, tu commences à perdre face aux Texans. On a l'impression d'une équipe qui s'est un peu perdue. Doug Peterson a laissé le play call offensif après Taylor, comme il l'avait fait aux Eagles à l'époque. Et bizarrement, comme aux Eagles à l'époque, ça marche pas. Il va falloir vraiment reprendre les choses en main parce qu'on sait que Doug Peterson, quand une saison part en vrille, il a un peu de mal à reprendre le truc. Il ne faut pas qu'il perde son vestiaire. Donc, il va falloir une réaction tout de suite. Et la défense, elle va devoir arrêter ce bulldozer qui est le jeu de course des Falcons, même s'il a été moins en vue la semaine dernière. Donc, c'est un match un peu piège pour Jacksonville.
Mais en même temps, c'est ce que j'allais te dire, la défense au sol de Jacksonville n'est pas mauvaise. Ils ont autorisé seulement 84 yards en moyenne par match. Ils sont 7e en NFL. Est-ce que ce n'est pas le moment aussi pour eux d'appuyer un peu sur cette force-là et de se rassurer?
Oui, 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 oui. Mais je suis d'accord. Mais je pense là vraiment que ça doit être le jeu au sol d'Atlanta contre un jeu, je l'espère, équilibré au niveau de Jacksonville. Parce que je trouvais que l'utilisation du jeu au sol était un peu trop faible ces derniers temps. Après, si on regarde individualité par individualité, je vais partir sur Jacksonville quand même, mais
oui,
c'est pas gagné.
Moi aussi, de toute façon.
On se lance dans la série des matchs de 19h le dimanche. Le premier, ce sera les Bills à 2 victoires et une défaite face aux Dolphins à 3 victoires, 0 défaite. On en a parlé dans notre affiche de la semaine. Ce sera le match qui sera sur 6play avec Lucas Vola et Grégory Richard au commentaire, encore une fois. On a dit qu'on prenait tous les deux les Bills. Oui, c'est ça. Les Panthers à 0 victoire et 3 défaites face aux Vikings à 0 victoire et 3 défaites. Alerte, première victoire pour une équipe cette semaine. En tout cas, on espère. Alors,
ça envoie des yards.
Oui. Ça envoie des yards côté Minnesota, ça, c'est pas le problème. Mais ils sont à 406 par match, c'est les troisièmes en NFL. Simplement, il y a 2 interceptions, il y a 7 fumbles perdus. Ça n'arrive pas à conclure du côté de Minnesota, Victor.
Oui, bah, tu l'as dit, hein, c'est ballons perdus qui les ont tués dans les 2 premiers matchs. Parce que honnêtement, ils ne sont pas si loin des Buccaneers et des Eagles, et je pense qu'ils peuvent les gagner tous les deux. Le troisième, bon, encore une fois, voilà, au moment décisif, bah, interception. Malgré tout, je pense que les Panthers n'ont pas les moyens de poser des problèmes aux Vikings, contrairement à ce que les autres équipes ont fait. Même si on ne sait pas du coup si ça sera Andy Dalton ou si ça sera Bryce Young, mais l'un dans l'autre, cette équipe des Panthers est quand même encore très limitée. Le match qu'a fait Thielen la semaine dernière, il ne fera pas ça toutes les semaines. Donc, je pense malgré tout que ça va être l'occasion pour Minnesota de revenir un peu dans la course.
Et justement, Thielen qui va retrouver son ancienne équipe. Il y a quelques réunions sympas là, cette semaine, on va en reparler. Tu parles du quarterback des Panthers. Entre Bryce Young, jeune fougueux, ou Andy Dalton, le anti-héros, tu préférerais qui pour mener les Panthers ?
Bah, c'est toujours pareil. À court terme, Andy Dalton. À long terme, j'ai envie de développer le rookie. Donc, je préférais que ça soit Bryce Young sur le terrain.
De toute façon, moi, je vais prendre Minnesota sur ce match.
Oui.
Les Bears à 0 victoire et 3 défaites face aux Broncos à 0 victoire et 3 défaites. Alerte, première victoire cette semaine. Et encore une fois, on espère que ce sera le cas. Parce que franchement, qu'est-ce qu'elle est vilaine, cette affiche.
Alors, et ben, je suis bien content d'être de repos, moi.
Alors, on a beaucoup parlé des Broncos en début d'émission, ouais. Donc on peut peut-être parler des Bears. Est-ce que c'est la pire équipe de la Ligue pour toi aujourd'hui, Victor ?
Oui, j'ai déjà dit 2 ou 3 fois. J'ai eu la chance de couvrir les Bears 2 semaines d'affilée pour TDA. Oui, c'est la pire équipe de la Ligue, de très loin en fait. Il n'y a rien qui va. Le coaching est désastreux. Justin Fields, on avait dit oui, mais il n'a pas de ligne, mais il n'a pas de receveur, mais il n'a pas tout ça. Vous allez voir, quand il va avoir tout ça, ça va être génial. Bah, il a tout ça maintenant et il ne progresse pas pour autant. Incapable de trouver une deuxième lecture. La défense qui est faible sur le papier, bah, elle est faible sur le terrain. Non, cette équipe, il n'y a rien à garder pour l'instant. S'ils jouent comme ça, ils peuvent faire 0 victoire. Il n'y a pas de problème. Ils sont nullissimes. Vraiment, enfin, et c'est pour ça qu'ils vont gagner, hein, parce que c'est la NFL et on aime, c'est ça qui est beau.
Bien sûr.
Mais franchement, enfin là, si les Broncos n'emportent pas, il y a, comme tu disais, il y a plus rien à sauver.
Je suis d'accord avec toi. Tu vois, je crois pas du tout en Fields non plus. Je savais qu'il ne m'apporterait que des ennuis. Déjà 3 touchdowns, 4 interceptions, 526 yards dans l'air, 109 à la course. En 3 matchs, c'est plutôt faible. Et ouais, je te rejoins sur la possibilité d'une saison à 0 défaite. Tu vois ? 0 défaite, 0 victoire. Quand il y a une équipe qui fait 0 victoire, parce que je trouve que c'est honnête. Il n'y a pas eu un match qui a été volé au milieu de machin. C'est... Je suis désolé pour les fans des Bears, hein, mais quand tu fais comme les Browns à l'époque, quand ils font 0, ils sont vraiment nuls. Donc ils font 0. Voilà, il n'y a pas de. Bon, bref. Broncos pour tous les deux.
Exactement.
Browns, 2 victoires, 1 défaite face aux Ravens, 2 victoires, 1 défaite. Ça, en revanche, c'est une affiche qui sent bon le football de la AFC Nord. Il y a de l'animosité, il y a du bad blood entre ces deux équipes. La défense des Browns, on en a dit tout à l'heure, c'est la défense qui est toujours numéro 1 dans la Ligue, avec seulement 163 yards encaissés par match. Côté Ravens, on doit rebondir après une défaite face aux Colts. Est-ce que Lamar Jackson peut porter cette équipe, Victor ?
Il peut le faire. Après, est-ce qu'il va le faire ? C'est un autre problème. Parce qu'en face, il a quand même la meilleure défense de la Ligue, et de très loin. Je crois qu'ils encaissent genre 450 yards dans 3 matchs.
Oui.
Défense qui est menée par Jim Schwartz, qui est un coordinateur défensif, qui a ses qualités et ses défauts, mais en général, il est quand même plutôt performant et plutôt productif. Il y a quand même un gros morceau à prendre, parce que les Ravens, ils sont toujours pas, on va dire, en pleine forme sur le plan des schémas de jeu. Et ils sont pas en pleine forme sur le plan physique, puisqu'ils ont une ribambelle de blessés, comme j'ai l'impression, tous les ans. Je sais pas comment ils font. Ils arrivent même à blesser leur long snapper. Alors, je me dis, c'est pas possible. Ça doit être dans la préparation physique. Mais du coup, ça va être un gros match. Tu l'as dit, un vrai match de football qui va se jouer yard par yard. Et moi, je pars avec les Browns parce qu'en début de saison, je fais toujours plus confiance aux défenses qu'aux attaques.
Et je pars avec les Browns aussi pour prouver qu'on a eu raison de les mettre favoris de l'AFC Nord il y a deux semaines. Les Texans à une victoire et deux défaites face aux Steelers à deux victoires et une défaite. Alors, énorme démonstration des Texans en semaine 3. Moi, ils m'ont enchanté. Est-ce que c'est une surperformance ou c'est le vrai début de quelque chose, Victor, pour cette équipe de Houston?
Je pense que c'est le début de quelque chose. Après, est-ce que ça veut dire qu'ils vont gagner 12 matchs dans la saison? Non.
Bah, mais est-ce que déjà, ils vont gagner face aux Steelers? C'est pas la même paire de manches, la défense de Pittsburgh, quoi.
En fait, moi, j'ai un vrai problème aujourd'hui avec, avec ce match, en fait. C'est que tu as quand même 4 blessés sur la ligne offensive des Texans. Alors oui, ça n'a pas forcément eu d'impact contre les Jaguars. Mais là, ce que tu vas affronter niveau Steelers, c'est un autre niveau, quoi.
Bah oui.
Et j'ai un peu peur que CJ Stroud, il finisse par voir des fantômes à la fin du match, quoi. Donc, c'est ce truc qui me fait un peu peur sur ce match, en fait.
Après, moi, il y a un truc, c'est que je crois pas vraiment en Kenny Pickett pour autant. Depuis le début de saison, c'est 4 touchdowns, 3 interceptions, 689 yards à la passe. S'ils se font vite dépasser au score pour une raison ou une autre, même sur des points défensifs ou quoi, et peut-être que Pittsburgh peut avoir du mal à remonter.
C'est pas un match gagné d'avance, hein. Ça, on est bien d'accord là-dessus.
Je prends Pittsburgh quand même.
Je prends Pittsburgh aussi.
Colts, 2 victoires, 1 défaite. Rams, 1 victoire, 2 défaites. Même question que pour les Panthers tout à l'heure. Est-ce que tu préfères Anthony Richardson ou Gardner Minshew? D'ailleurs, Richardson, oui, il est toujours questionable au moment où on enregistre. Ne m'accusez pas si ça vient fausser vos pronos et qu'il se met à jouer.
À court terme, je préfère Gardner Minshew. Et à long terme, je préfère Anthony Richardson.
Oh là là, ce Normand.
Excuse-moi, mais c'est la réalité. Hein. Des gens, souvent, s'attendent à ce que les quarterbacks rookies soient genre des superstars en semaine 1 et gagnent 15 matchs et machin. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est un poste très exigeant qui nécessite de l'apprentissage. Et c'est rarement facile la première année. Voilà. Après, sur ce match-là, moi, malgré la défaite face aux Bengals, les Bengals, c'est vraiment une bonne défense. J'aime bien cette équipe des Rams. Il y a un truc, il y a un rythme, c'est coaché, il y a des vétérans. Et du coup, je vais partir sur les Rams parce que je trouve qu'il y a, c'est une équipe qui joue pour gagner vraiment, qui a des limites, mais qui se donne et... J'ai envie de leur faire confiance.
Eh ben, tu sais quoi, je suis exactement comme toi. Et moi, j'aime bien le petit receveur Puka Nacua. Je vous encourage à aller lire l'article écrit par notre collègue Jean-Michel sur le site. J'aime bien cette attaque, tu as raison. J'aime bien les joueurs qu'il y a là. J'aime bien le coaching staff, j'aime bien un peu tout. Donc, je suis content qu'ils ne soient pas complètement ridicules depuis ce début de saison, pas complètement. Et j'espère qu'ils vont gagner ce match-là aussi. Les Saints à 2 victoires et 1 défaite, les Buccaneers à 2 victoires et 1 défaite, le retour de Jameis Winston, alors peut-être OMG.
J'avais pas pensé à ça.
C'est vrai. Alors, mais combien d'interceptions pour Jameis Winston si jamais il joue ce match, Victor Roulier?
Il ressemble à quoi les linebackers en face? En plus, il y a des bons linebackers en face, parce qu'on sait que la spécialité de Winston, c'était à donner dans les mains des linebackers.
Bah, c'est ça.
Bon, je dirais un petit 3, ce serait pas mal.
Ouais. Moi, je vois le moment où les Buccaneers vont repartir de l'air en se disant « On ne se remettra jamais de ces jamais avec Jameis Winston ». Je me rappelle qu'il a joué à Tampa avant. Petite stat marrante, les Saints pourraient devenir la première équipe depuis 1994 a accordé 20 points au moins en 12 matchs de saison d'affilée. C'est une belle stat. Est-ce que, selon toi, les Buccaneers peuvent marquer plus de 20 points à cette équipe des Saints?
C'est Ça va être limite quand même, parce que c'est une bonne défense. En fait, des deux côtés, avec la blessure de Derek Carr, j'ai l'impression que des deux côtés, c'est la défense qui va dominer. Et donc, je sais pas, je vois ce match comme c'est un bon vieux 15-12. Tu vois le
Cela
genre?
dit, même s'ils perdent le match, mais qu'ils prennent moins de 20 points, le record tient pour les Saints.
Oui, certes, 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 mais ouais, c'est quand même difficile. Après, Winston, il va quand même avoir des armes, hein, là, on va pas se mentir. Cette attaque des Saints, il y a
Ah
des
oui.
playmakers quand même, il va avoir eu une semaine pour se préparer. Je trouve qu'en fait, le match face aux Eagles a montré ce qu'étaient les Buccaneers, c'est-à-dire une équipe correcte, mais pas assez forte pour lutter contre des très bons. Là, en fait, ça va être le test ultime parce que là, c'est le match qui va dire est-ce que tu es au niveau pour disputer la division? Bon, c'est très compliqué. Je vais aller sur New Orleans, mais honnêtement, les deux peuvent se défendre.
Bah, premier désaccord entre nous, je vais prendre les Buccaneers parce que je ne crois pas du tout en Jameis Winston. Après l'avoir annoncé comme le sauveur de la saison des Raiders il y a quelques années. Non, c'était Mariota. C'était
C'était
Mariota.
Mariota,
Oui,
ouais,
c'était Mariota. Je les confonds forcément, les deux numéro 1. Enfin, numéro 1 et 2. Allez, Eagles, 3 victoires, 0 défaite. Commanders, 2 victoires, 1 défaite. Victor, tu dois te calmer. C'est la première fois que Philly est en 3-0 depuis 1992. Eh oui, ça a l'air très
Non,
très
on était en
solide.
3-0 l'année dernière. C'est la première fois
Quoi?
qu'on est deux saisons d'affilée à
Ah
3-0
oui, ouais, j'ai
depuis
lu trop vite.
1992. Eh oui, 92-93.
Ah, c'était
Et
pour ça
ouais,
qu'il y
t'as
avait deux
voulu me
chiffres,
piéger
ok.
sur ma franchise, t'y arriveras pas, t'y arriveras pas.
Bon, ça a quand même l'air très très solide, au sol surtout avec Swift, pas celle à laquelle vous pensez, hein. L'autre.
Mais il y a le couple Kelce Swift,
Tout
on
à
l'a
fait,
aussi.
il est présent chez les Philadelphia Eagles. Le soufflet retombe pour Washington, hein, qui avait commencé avec les Cardinals et les Broncos. Bon, bah là, voilà, ils viennent de se faire remettre un peu la tête à l'endroit. Il n'y a pas vraiment de débat sur ce match, Victor. Les Eagles devraient l'emporter.
Alors encore une fois, il y a le côté match de division. Tu vois, l'année dernière, les Eagles, ils affrontent Washington à 8-0. Tout le monde dit, il n'y a pas de débat, etc. Et puis finalement, Washington l'emporte parce que les Eagles perdent 5 ballons. Donc, ça arrive toujours, mais c'est sûr que le plus probable, c'est une domination des Eagles. Et en fait, là où les Eagles sont plutôt, on va dire, assez impressionnants selon moi, c'est que on a à peu près tous l'impression qu'ils jouent à 50 ou 60% de leur capacité. Et pourtant, à la fin, ils sont à 3-0 sans avoir eu vraiment de problème. Donc, tu te dis, ça va donner quoi s'ils gagnent 5% chaque semaine, quoi. Et surtout, cette défense qui est vraiment en progression, c'est assez net. Donc, normalement, moi, j'ai juste une stat qui va te faire rire. C'est on connaît la
Allez.
propension des Eagles à mettre des sacs. Hein, l'année dernière, 70. Là, ça a bien commencé. Notre cher Howell, il a déjà pris 19 sacs en 3 matchs. Donc, il est sur une base de 107 sacs à l'année, ce qui serait évidemment le record absolu. Mais j'ai peur qu'en affrontant des Josh Sweat, Hassan Reddick, Jalen Carter, etc., ça soit un peu compliqué pour lui.
Je crois, j'avais regardé, hein, je crois de mémoire, je vais pas vous dire une connerie, mais il me semble que c'est 68 le record de sacs encaissés sur une saison.
Je ne sais plus le nom, mais en tout cas, c'est David Carr, ça c'est sûr.
Mais c'est pas 107, hein. Ça c'est sûr et
C'est pas
certain.
107, mais c'est David Carr, ça c'est sûr et
Mais chez les
certain à
Cardinals?
l'époque des Texans.
Non, chez les Texans?
Texans, ouais,
Ah bah
mieux.
bon, voilà. Regardez la stat, vous la trouverez, mais on est très loin de 107. Dernier match de 19h, c'est les Titans à une victoire et deux défaites face aux Bengals à une victoire et deux défaites. Il va falloir dire du bien d'une de ces deux équipes. Regarde ce que tu me fais faire là, Victor. Bon, on
Bah
commence.
si, la défense des Bengals. Si, si.
Ouais, ok.
Ah si, la défense des Bengals, elle a été exceptionnelle contre les Rams. Ils sont bien coachés, on ne découvre pas. Hein. Mais je trouve qu'elle monte enfin en puissance. Et même si l'attaque des Bengals est limitée, parce que Burrow ne peut clairement pas bouger, hein. Il a beau dire qu'il n'est pas diminué, il est absolument diminué. Cette défense, elle peut gagner des matchs. Et là, dans ce cas de figure, avec cette attaque des Titans, c'est même pas désespérante, je n'ai pas d'autre mot. Moi, je donne un avantage clair aux Bengals parce que je ne vois pas les Titans marquer 10 points, en fait.
Je prends de toute façon les Bengals aussi. Est-ce qu'on va commencer à parler de d'Eric Henry?
Bah, écoute, c'est un running back qui a plus de 28 ans, donc
non, mais
il peut être cramé en 6 mois comme tous les running backs qui ont plus de 28 ans.
Ouais, mais tu vois, avec lui, on s'est... Enfin, moi, je trouve qu'il y avait quand même ce côté, il a l'air au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir chez les running backs. Il y a quand même un truc en plus. Et là, cette saison, il est à 163 yards en 51 courses, soit 3,2 en moyenne. C'est bien, et un seul touchdown, c'est bien en dessous de ses critères habituels.
Ouais, bon, après, bon, il y a déjà eu, c'est, je ne sais plus, c'est l'année dernière, il y a 2 ans, où il y avait eu un départ un peu faible comme ça. Bon, pour l'instant, on va attendre de voir, il n'est pas aidé par sa ligne non ouais. plus, mais c'est vrai qu'il n'a pas forcément cette puissance et cette explosivité qu'on a vue au fil des saisons. Ouais.
Alors, on lui laisse le bénéfice du doute encore un peu. Dimanche à 22h05, les Chargers à une victoire, 2 défaites face aux Raiders à 1 victoire et 2 défaites. C'est franchement un été cruel pour les fans des Chargers, hein, parce que les blessures qui s'enchaînent, les mauvais résultats, en étant moi-même fan des Chargers, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas simple. En revanche, sur ce match-là, Victor, rassure-moi un peu, ils doivent gagner quand même.
Match de division.
Arrête,
normalement ils doivent gagner parce que la défense est aux abois, mais ils ont quand même une attaque sacrément performante. Blessure de Mike Williams.
Ben oui, mais
attention,
oui.
Attention, il va falloir impliquer Quentin Johnson, Johnston, de l'ancien TCU, le premier tour, qui n'a pas été impliqué dans les premiers matchs, je sais, puisque j'ai en fantasy, mais j'espère qu'il sera beaucoup plus impliqué à partir de maintenant. L'avantage, c'est qu'il y a quand même des fondamentaux. Enfin, qui va défendre Keenan Allen dans cette défense des Raiders? Je sais pas si quelqu'un est capable de le faire. Autre point d'interrogation, Ekeler.
Revient pas. Questionable au moment où on écrit.
Voilà, revient pas. Cette équipe, je suis désolé, mais c'est pas la même sans Ekeler.
Non.
Sans Ekeler, c'est unidimensionnel. Avec Ekeler, c'est une double menace. Donc, c'est clairement pas la même équipe. Donc, à voir comment il revient.
Après, côté Raiders, tout le monde n'est pas forcément là non plus. Dans mes notes, j'ai réalisé juste au moment où on a commencé à en parler, j'ai écrit Derek Carr et Questionable. C'est bien sûr Jimmy Garoppolo.
Ah oui, non, mais toi, t'as un problème avec Las Vegas, en fait.
Ouais.
Non, mais c'est vrai que c'est... Y a Garoppolo qui est Questionable, il y a...
Derrière, c'est Brian Hoyer ou Aidan O'Connell, qui est un rookie. Tu sais nous en dire un mot sur Aidan O'Connell?
Ah non, mais j'ai pas besoin d'en dire un mot. Puisque c'est Josh McDaniels et qui va faire jouer Brian Hoyer, comme tous les coachs des Patriots depuis 15 ans.
Il non, attendait que façon, ça, en fait.
Et vous savez tous ce qu'il vaut, Brian Hoyer. Hein, donc, on le voit tous les ans.
Il est nul.
C'est désespérant. Après, voilà, c'est une équipe qui a des qualités, mais quand ton coach s'assure que tu perds, comme il l'a fait la semaine dernière, ça aide pas, quoi. Donc... Je reste persuadé que McDaniels est un très bon coordinateur, mais un entraîneur principal désastreux, comme il l'avait été dans le passé. Et j'ai du mal à aller voir se relever face à une telle attaque, oui, ça c'est sûr.
À voir qui sera le plus mauvais coach entre Brandon Staley et Josh McDaniels. Je vais prendre les Chargers, oui, évidemment. Dimanche à 22h25, les Cowboys à 2 victoires et 1 défaite face aux Patriots à 1 victoire et 2 défaites. Zeke Elliott qui va retrouver une équipe qu'il ne connaît que trop bien. On le disait tout à l'heure, il y a quelques retrouvailles cette semaine. Est-ce que ça peut jouer ça d'ailleurs, c'est face à ton ancienne équipe, de vouloir prouver? En plus, les Patriots qui aiment bien attaquer au sol, la défense de Dallas n'est pas complètement imperméable avec 130 yards en moyenne par match encaissé. Ouais, est-ce que Zeke Elliott, on n'est pas sur un gros match en venir, là?
Bah, c'est surtout la semaine dernière hein, que les Cowboys ont craqué au sol, alors que sur les 2 premières semaines, ils avaient été honorables.
Oui, face aux Jets et aux Giants. Hein.
Non, mais certes, mais oui, ça va être un point, parce qu'il y a Stevenson, il y a Zeke Elliott, on sait que Belichick aime insister sur ses schémas de jeu. Après, malgré tout, l'attaque des Patriots reste limitée par le manque de talent. À peu près tous les postes, je ne vais pas refaire ma diatribe de la dernière fois, mais c'est vrai que c'est une équipe qui reste limitée par nature. La défense des Cowboys, elle a eu un mauvais match contre les Cardinals et la blessure de Diggs n'a pas dû faire du bien dans la tête, mais je pense qu'elle va se remettre à endroit. Elle est bien coachée en plus avec Dan Quinn. Et de l'autre côté, la défense des Patriots, elle est évidemment très bonne, mais il va falloir arrêter des sacrés bestiaux comme Sidéon, comme Tony Pollard. C'est typiquement le match où je vois Belichick embêter Dallas, genre tout le match, mais craqué sur la fin parce qu'il n'a pas assez de talent dans son effectif. Donc, je vais partir sur Dallas.
Je vais prendre Dallas aussi, même si, tu vois, après le match face à New York et New York, les deux équipes, les stats sont jolies, mais tu vois, le match de la semaine dernière peut peut-être être un petit rappel à la réalité et donc découvrir que c'était là qui cache la forêt.
Ouais, attention, pour l'instant, je mise sur l'accident.
Ouais, bon, ça me va, mais attention. 49ers, San Francisco, 3 victoires, 0 défaites. Cardinals d'Arizona, 1 victoire et 2 défaites. Alors, Victor, je lis un peu sur notre chat de rédaction que les Cardinals ne sont pas si mauvais que ça, mais rassure-moi, même dans mes rêves les plus fous, ils ne gagnent pas ce match. Hein.
Bah écoute, moi, j'étais persuadé qu'ils ne battraient pas les Cowboys. Donc,
ouais, mais ce n'est pas pareil. Enfin,
ouais,
je,
mais
pour
c'est
moi,
la NFL, tu ne sais jamais. Quoi. Après, oui, dans 98% des cas, les Niners sont au-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, le truc des Niners, c'est une équipe tellement bien huilée et qui a une capacité à être au top dès le début de la saison. Je veux dire, à part les Dolphins, quelle équipe a été aussi complète et aussi efficace dès le début de la saison? Okay. Personne. Donc, même, tu vois, les Eagles qui sont invaincus, comme les deux que je viens de citer, ils sont pas au niveau de préparation que sont les 49ers aujourd'hui. Donc, normalement, la machine Niners n'a pas de raison de s'enrayer sur Cardinals. Mais comme tu dis, ils sont vaillants. Et honnêtement, les Cardinals, ils sont beaucoup plus embêtants à jouer qu'on aurait pu le croire.
Ok, bah je te l'accorde. Ça fera la 14e victoire de rang en saison régulière pour San Francisco. C'est quand même pas mal. On en est à combien de l'horloge du tic-tac avant la blessure de McCaffrey? Là, il lui reste combien de matchs avant de se blesser, à ton avis?
Ah non, fais pas ça.
Bah quoi, bah non. C'est, pardon. Mais... Moi, tu sais, je suis le petit crocodile dans Peter Pan. J'arrive avec
déjà,
le réveil, là.
On lui a déjà volé un titre de MVP. J'aimerais bien qu'il puisse en avoir un jour. Ou au moins de joueur offensif de l'année. Non, McCaffrey, moi, c'est mon chouchou depuis longtemps. Moi, je lui veux que du bien.
Bon, allez, j'arrête le mauvais esprit. Tu as raison. Ne souhaitons pas le mal des gens. Et c'est un excellent joueur. On lui souhaite une belle réussite. Dimanche, dans la nuit dans la nuit de dimanche à lundi, les mots dans le bon ordre, c'est mieux. À 2h20 du matin, les Jets de New York, à une victoire et deux défaites face aux Chiefs de Kansas City, à deux victoires et une défaite. Encore un match en prime time sacrifié sur l'autel de la cheville de Rodgers. On va vite secouer tout ça. Tant que Zach Wilson est dans l'équation, ça n'ira pas pour les Jets, et encore moins face aux Chiefs, Victor.
Je pense que l'année prochaine, tu vas... mais l'année prochaine, ils vont te dire « Eh, au fait, on a réfléchi, et les matchs en prime time, on va les flex dès la semaine 1. »
C'est sûr. Non, mais bien sûr.
Bon, là, c'est vrai qu'on est... Enfin, on va encore se taper une journée de Zach Wilson. Je suis désolé hein, pour les fans des Jets. Tu vois, c'est parce que c'est vraiment pas marrant pour eux. Eux qui avaient quand même tout cet espoir né d'arriver de Rodgers.
Mais oui, tout le monde était derrière
ça. J'en suis franchement à leur souhaiter que ça soit Simian sur le terrain, parce qu'ils auront au moins une chance de gagner, tu vois. Parce que Zach Wilson, c'est clairement un 12e joueur pour adversaire. En plus, quand même, les Chiefs, bon, c'est pas une mauvaise équipe. Et en plus, défensivement, les Chiefs, c'est plutôt très bon depuis le début de la saison. Donc là, normalement, encore une fois, sur le papier, ça devrait être largement Kansas City.
Oui. Travis Kelce contre Sauce Gardner, deux anciens joueurs des Bearcats de l'Université de Cincinnati. Référence de NCAA, t'as vu hein? Je prépare un peu, mais bravo. Merci. De toute façon, bon, on verra ce que ça donnera, mais je sais pas si c'est vraiment Gardner qui va le défendre.
Non, après, c'est pas impossible sur certains schémas de jeu, parce que Kelce, tu sais, c'est un tight end qui joue très extérieur, donc c'est pas impossible. Après, c'est vrai que normalement, ça ne devrait pas être le cas, mais à un moment, est-ce que ce serait vraiment idiot? Je ne suis pas sûr, parce que Kelce, c'est quand même l'arme principale, et on a bien vu quand il était blessé que les autres receveurs ne sont pas particulièrement des menaces. Donc, franchement, ça serait tout à fait envisageable.
Ce serait rigolo. Et enfin, dernier match, on prend les Chiefs tous les deux, hein, bien sûr.
Oui.
Et enfin, dernier match dans la vie de lundi à mardi à 2h15 du matin. Il n'y a plus qu'un seul Monday Night Football. Enfin, on retrouve un rythme normal. Les Giants de New York à une victoire et deux défaites face aux Seahawks de Seattle, deux victoires, une défaite. Et encore une retrouvaille, puisque Jamal Adams va retrouver le MetLife Stadium de ses anciens Jets, tout comme Seattle va retrouver le stade du Sacre face aux Broncos en 2014. Et Seattle qui monte doucement en puissance. Est-ce que les Giants ne sont pas l'équipe parfaite pour continuer cette bonne série, Victor?
Et Geno Smith qui va continuer sa rédemption en ayant gagné contre une de ses anciennes équipes.
En plus,
écoute, cette équipe des Giants, elle est problématique, je dirais, parce qu'aujourd'hui, tu as une ligne offensive qui était censée être renforcée et qui paraît plus faible que jamais. Alors oui, Andrew Thomas et Ben Bredesen vont revenir, hein, heureusement, mais ça reste quand même un point faible. Barkley est blessé et la défense ne va pas beaucoup mieux. Et en face, tu as une équipe de Seattle qui, après l'accident de la première semaine, vient d'enchaîner deux performances de très haut niveau. C'est vrai que sur le papier, tout va vers Seattle. Et d'ailleurs, je joue Seattle parce que voilà, aujourd'hui, toutes les certitudes qu'on avait pu construire sur les Giants en fin de saison dernière ont un peu disparu. Et partir avec Pete Carroll me paraît le choix le plus raisonnable.
Oui, et puis moi, côté des Giants, ça patine trop en attaque. Il y a un espace vide. Daniel Jones n'y est pas. Deux touchdowns, quatre interceptions, 562 yards et déjà 12 sacks encaissés. Lui aussi, il a pris cher cette saison. Ouais, je n'y crois pas vraiment pour cette équipe de New York. Voilà qui termine nos pronos de la semaine. On va finir, nous, cette émission avec les meilleures cotes. Les cotes de cette semaine 4 de NFL, vous les retrouvez avec notre partenaire Unibet. On va pouvoir regarder un petit peu ce qu'on a déjà. Alors Victor, est-ce que la malédiction se poursuit et tu n'arrives pas à ouvrir Unibet au moment des pronos ou c'est bon?
Exactement, exactement. Mais de toute façon, les gens sont habitués. Ça fait littéralement 2 ans que Alain ou toi ou Lucas, vous êtes obligés de
meubler.
De meubler pendant que j'ouvre Unibet. Donc, vous le savez tous, ouvrir un site de paris sur un ordi professionnel, c'est parfois ça relève du contorsionnisme. C'est bon, c'est ouvert.
Alors, moi, il y a un premier truc que je voudrais te signaler, Victor, c'est que les Rams sont underdogs pour nos amis d'Unibet et que les Colts sont les favoris du match et que rien que ça, pour moi, c'est ma première cote.
Oui, je suis d'accord avec ça.
Voilà. Ensuite, si on regarde un petit peu autour, alors il y a un Bills Dolphins où on a mis tous les deux les Bills gagnants, mais les Dolphins ont une cote de 2-12 quand même. Et c'est pas inintéressant.
Moi, j'ai 2-13, tu vois. Je suis encore plus
mais
que
toi. T'es dans le turfu, mais attends, mais c'est fou cette histoire. Bon. Mais les Dolphins, pas mal, quoi.
Ouais, ça se joue. Et même juste au-dessus, les Falcons face aux Jaguars, 2-17. On a joué les Jaguars, hein, pareil, mais en vrai, 2-17.
Moi, j'ai peut-être un autre truc à te proposer, mais tu me dis ce que tu en penses. Il y a les Buccaneers qui sont à 2-23 face aux Saints.
Et les Ravens qui sont à 2-13 face aux Browns.
Ouais, ça, j'y crois un peu moins. Mais ouais, tu vois,
les Buccaneers, j'aime bien. Les Buccaneers, j'aime bien.
Tu vois, moi, là, il y a trois underdogs qui ont complètement la possibilité de remporter leur match. Et si on met donc les Dolphins à 2-12 ou 2-13, hein, ça dépend de où est-ce que vous êtes situé en France. Je sais pas pourquoi on a une différence.
C'est restriction géographique.
Non, les Dolphins à 2-12, les Rams à 1,89 et les Buccaneers à 2,23 pour une mise de 5 €. Vous avez un gain potentiel de 44,68 avec une cote à 8,94. C'est quand même pas mal du tout, je trouve, pour un petit combiné. Voilà. En tout cas, moi, je partirais bien là-dessus. Qu'est-ce qu'on rajoute dans notre YOLO? Alors, pour info, la cote la plus haute de la semaine, c'est les Cardinals qui sont à 6 face aux Niners. On va dire qu'on n'est peut-être pas YOLO à ce point-là.
Je ne sais pas. Tu sais que j'ai dit à Jean-Michel dans la preview de la semaine dernière, il m'a dit « Ouais, ça serait pas mal de jouer les Cardinals contre les Cowboys. » Je lui ai dit « Quand même, abuse pas.
» Abuse pas, frère.
Écoute, si tu crois vraiment aux Patriots, ils sont à 3-18.
Alors, c'est ce que j'allais te dire, si on fait un YOLO, moi je mets les Patriots, pas de problème.
Et moi je mets les Raiders aussi à 2,88.
Non, bah ça, je vais être obligé de te suivre parce qu'il faut qu'on répartisse un peu entre nous, mais moi j'aurais jamais mis les Raiders face aux Chargers, mais ça c'est des questions personnelles bien sûr. Donc, très bien, rajoutons les Raiders à 2,88. Et qu'est-ce qu'on peut aller chercher d'un peu rigolo à la fin? Panthers-Vikings, Panthers à 2,38. Oh, c'est pas vraiment YOLO.
Texans à 2,10, si l'attaque des Steelers continue.
Texans à 2,10. En plus, tout à l'heure, je t'ai dit attention, les Texans, blabla.
Bon, les Bears à 2,26. C'est marrant parce que les Bears, ils sont à 2,26, les Broncos à 1,52, alors que je ne vois pas un tel écart entre les deux équipes. D'ailleurs, les paris sont très, très équitables parce que vous pouvez voir sur Unibet le pourcentage de gens qui ont misé sur chaque cote. Et il y a 49% en faveur des Bears et 51% en faveur des Broncos. Donc la cote est très intéressante au vu du potentiel, j'imagine, et des différents paris.
C'est là où vous voyez que je ne fais pas les, je ne suis pas chez Unibet à faire les cotes, sinon j'aurais mis les Bears à 21.
Oui, bah oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu veux mettre en dernier? Est-ce
Ben
qu'on
non, on en a
peut.
6, c'est bon,
Moi, j'en
non?
ai que 5 là, non? T'as mis qui,
Vas-y,
toi, en dernier? Les Texans? Moi,
redis-moi.
j'ai mis Dolphins, Rams, Buccaneers, Riders, Patriots.
Oui, Texan en sixième.
Ah, Texans, Texans, d'accord. Alors, on met les Texans, très bien, très bien. Donc, les Texans à 2-10 face aux Steelers. Et alors là, messieurs, dames, je vous rappelle le combiné YOLO. C'est les Miami Dolphins à 2-12, les Houston Texans à 2-10, les Los Angeles Rams à 1,89. Tampa Bay Buccaneers à 2,23, Las Vegas Raiders à 2,88 et New England Patriots à 3,18. Pour une mise de 5 euros, vous avez un gain potentiel de 923,29 euros. C'est pas mal, on n'est pas au 1000, mais on n'est pas loin. C'est un YOLO qui est intéressant.
Oui.
Bon, ça me va, tout en vous rappelant bien sûr de ne miser que ce que vous pouvez et que le pari doit rester un plaisir avant tout. Si vous sentez que vous perdez le contrôle, n'hésitez pas, il y a plein d'outils pour vous faire aider dans ce sujet-là. Victor, je crois qu'on est bon?
Eh ben, je crois qu'on a fait tout, en effet.
Ben ouais, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Victor, toujours un immense plaisir d'animer ces émissions avec toi.
Mais merci à toi, merci à tous. Et retrouvez-moi dès demain avec Jean-Michel pour parler de
Cet homme n'arrête jamais. Je vous rappelle que
cornerback.
l'émission vous est présentée par 6play. Vous pouvez vivre la saison régulière sur 6play tous les dimanches à 19h avec une affiche en direct et gratuitement. Et ce dimanche, on l'a suffisamment dit, c'est l'affiche entre les Bills et les Dolphins. Donc vraiment, ne le manquez pas. Il y aura Luca Vola et Grégory Richard au commentaire. C'est toujours sur 6play, sur l'appli ou sur 6play.fr. Pour le reste de l'actualité de la NFL, c'est sur touchdownactu.com, TD Actu si vous voulez aller plus vite. Sur les réseaux sociaux, on est partout, on est sur Twitter, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur les applis de podcast. Et on se retrouve eh bien, dès demain avec l'équipe Draft pour parler des cornerbacks. Tu seras avec qui cette fois-ci, Victor?
Jean-Michel.
Avec Jean-Michel Boujard, notre autre expert de ces sujets-là. Merci beaucoup, bonne journée, soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez et à très bientôt. Salut!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.